bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir de vous retrouver ici sur les ondes du 89.1 en studio, donc ce mardi, pour une nouvelle édition de La Vie en BD. Alors évidemment, au fil de la prochaine heure, eh ben, on va vous entraîner à travers le 9e art et j'ai l'impression un peu dans une perspective analytique, dans une perspective réflexive cette semaine. En deuxième moitié, ben, on vous l'a annoncé la semaine dernière, donc Stéphane Gravel qui nous arrive coup sur coup avec 2 mois en BD à 2 semaines d'intervalle. Et pour le mois de février, il avait envie de nous amener vers la sphère de Tintin. Alors, donc ça va être notre deuxième moitié d'émission. Et pour notre première moitié d'émission, eh bien, on va plutôt aller à la rencontre, je dirais, dans une chronique de type professeur Michel Giguère, les chroniques qu'on aime bien d'ailleurs. Et eh bien, il est déjà avec moi en studio ici au 89.1. Michel Giguère, bonjour.
Oui, je suis là. Bonsoir, merci de me recevoir.
Ben, merci à toi de venir. Et ben, Michel, en fait, évidemment, si tu es ici avec nous, c'est aussi parce qu'il y a un contexte, c'est les rendez-vous de la BD. Tu les comptes en saison, et t'es rendu à ta 37e saison. Donc, saison qui va être lancée, d'ailleurs, le 8 février, donc sur la scène littéraire de la Maison de la littérature. Et le thème qui inaugure la saison hiver-printemps 2023, c'est « Lecteur manipulé, entre parenthèses, mais consentant, suspense et focalisation ». Alors, officiellement, bonsoir Michel Giguère.
Bonsoir Raymond.
Alors, en décembre, et je continue, j'ai l'impression que j'ai une mise en bouche assez longue et prolongée pour toi, Michel, mais je tiens à rappeler qu'en décembre, en fait, on t'était passé ici pour nous donner un avant-goût de ta présentation qui s'appelait cette fois-là « Planches éclatées, la mise en page », donc une deuxième partie. Mm-hmm. Et on avait mentionné que cette diapo-conférence-là s'inscrivait en quelque sorte dans une série de conférences à caractère pédagogique sur le langage, sur les mécanismes de la bande dessinée. Et donc, je pense que les auditeurs auditrices auront compris que c'est encore le cas ce mois-ci, je le disais, c'est un peu en mode professoral. On est sur le suspense, on est sur la focalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au fil de la prochaine demi-heure, Michel, on va jaser de narration, on va jaser de manière de raconter, et je te fais confiance, tu vas t'en donner à cœur joie.
Oui, c'est vrai, on peut parler de série, t'as raison, bien que chaque diapo-conférence s'apprécie en elle-même, je l'espère en tout cas, et sauf exception, elles sont toujours visibles en rattrapage sur la page Facebook de la Maison de la littérature, sauf que c'est pas un prérequis de les avoir toutes vues. Cela dit, c'est certain que, parlant de suspense, il va être forcément question des divers aspects sur lesquels je me suis attardé là, quand j'ai parlé tantôt de mise en page, tantôt de mise en scène, de mise en séquence, ou encore des rythmes de la BD. Quand je dis les rythmes au pluriel, c'est le rythme de l'action, le rythme de la narration et le rythme de la lecture. Par exemple, parlant de rythme, il suffit de penser que suspense, c'est un emprunt à l'anglais qui vient lui-même du mot français « suspens ». Et ce qui est en suspens, c'est précisément le temps. Le temps se suspend, l'action est en suspens et ça crée du suspense. Et plus concrètement, le temps qui s'étire, comme un élastique qui s'allonge progressivement jusqu'à devenir de plus en plus tendu, jusqu'à presque péter, jusqu'à créer donc une tension. Et tout ça est évidemment indissociable du rythme de ce que j'appelle le coefficient espace-temps de la bande dessinée. Et puis un autre aspect aussi du sujet de demain qui est lié à d'autres diapo-conférences présentées ces dernières années, là, celles que j'ai nommées, la notion de temps, on vient de le dire, est liée au principe du suspense, mais également la notion de moment. Le moment où tel élément est révélé au lecteur, ce qui suscite chez lui, le cas échéant, l'anticipation. Eh bien, en BD, tout ça est intrinsèquement lié à la mise en page, à ce qui est visible par le lecteur quand il balaie la double planche des yeux et à ce que le BDiste a reporté à la double page suivante pour ménager son effet de suspense. Et ce procédé-là que le doctorant Christian Quesnel, et évidemment par ailleurs auteur, appelle le surgissement, c'est bien sûr lié à la forme livresque de la bande dessinée. Le moment où on tourne la page est crucial. Au cinéma, l'effet peut s'en rapprocher, mais il opère pas en fonction d'une quelconque mise en page.
Et d'ailleurs, on peut le spécifier, il y a dans le titre que t'as donné, Michel, à la présentation de demain soir, « Lecteur manipulé, mais consentant ». Donc, on comprend qu'il y a une dimension de jeu qui s'installe aussi.
Ah, mais oui, vraiment. Le récit de fiction repose sur le jeu entre l'auteur, son personnage et son lecteur. C'est un jeu à trois qui se compose de ce que l'auteur montre et que le lecteur, donc, sait, et que le personnage, lui, sait ou sait pas, c'est selon. C'est aussi ce que le personnage voit ou ne voit pas. Ce que l'auteur, par ailleurs, ne montre pas, et que le lecteur ignore, donc, mais que le personnage, lui, le sait. Ou encore, il le sait pas. Il y a plein de combinaisons possibles. Une autre variable du jeu, c'est dans quel ordre le lecteur va apprendre les faits, à quel moment, je le disais tantôt, là, à quel moment le narrateur va lui révéler tel ou tel élément de l'intrigue. Une dernière variable du jeu, c'est de quelle façon, sous quel angle, le narrateur va nous révéler tel ou tel élément de l'intrigue, et entre autres, de quel point de vue. Et ce jeu-là, ben, se nourrit notamment du plaisir qu'on prend à avoir peur. On adore se faire des peurs, et ça, c'est dès l'enfance. Il y a des tonnes de contes et d'histoires pour enfants qui le prouvent depuis des siècles. Et une fois adulte, on est encore grisé par le sentiment de peur. Mais là, ça se limite pas à des récits d'horreur et d'épouvante. Non, non, c'est la peur qu'on ressent par rapport à ce qui peut arriver à une menace quelconque qui pèse sur le héros. Et pour finir, c'est un jeu qui implique, qui demande beaucoup de confiance. Ça a l'air un peu ésotérique, là, mais le lecteur s'en remet aux mains du grand marionnettiste, tandis que l'auteur, lui, doit faire confiance à l'intelligence du lecteur.
Et on comprend, parce qu'on parle aussi de code, de procédé, de processus, de langage littéraire. Donc, comme dans la plupart des jeux, il y a des règles, il y a des accessoires, il y a un vocabulaire spécifique. Alors, peut-être, en fait, pour les biens de notre conversation, ça serait bien que tu éclaires certains des termes que tu vas utiliser. On a défini tout à l'heure le mot « suspense ». On peut probablement définir quelques autres.
Oui, déjà, tu as mentionné tantôt le mot « narration ». Et si le récit, c'est l'histoire qu'on raconte, eh bien, la narration, c'est la manière de raconter. Et dans la manière de raconter, le point de vue est fondamental. Je vais en parler abondamment demain soir.
Et toujours par rapport à la terminologie, on reste là-dedans, mais pour éviter vraiment toute confusion, donc j'ai l'impression qu'il faut souligner que le mot « suspense » désigne à la fois un procédé narratif, mais en parallèle désigne également un genre, que ce soit littéraire, cinématographique ou BD-esque.
Oui, exact. On va dire, il y a du suspense dans cette scène-là. Et là, on évoque le procédé narratif qui crée une tension. Et on va aussi dire, telle œuvre est un bon suspense. En quel cas, on réfère au genre. On va dire d'une œuvre que c'est un suspense quand le récit repose essentiellement sur le procédé de suspense, quand sa trame narrative s'articule autour du principe de suspense. On a mille fois qualifié Alfred Hitchcock de maître du suspense, entendu là dans les deux sens du terme, le maître du genre et le maître pour créer du suspense dans ses mises en scène. Et je me gênerai pas de convoquer le maître pour aborder demain soir la notion de suspense.
Et je devine aussi que tu fais des parallèles entre l'idée de créer du suspense en BD et, comme parfois c'est des langages, on comprend bien qu'ils se rapprochent, mais comment créer du suspense dans un film?
Oui, et même si le suspense opère pas toujours de la même manière dans les deux médiums, je parlais tantôt du principe de la mise en page, il reste que bande dessinée et cinéma sont néanmoins deux modes de narration par l'image séquentielle. Alors, c'est sûr qu'il y a des parallèles intéressants à faire. Hitchcock utilise un exemple très simple pour expliquer le ressort, le mécanisme du suspense en le distinguant de l'effet de surprise. C'est un exemple que je vais expliciter là, demain. Et ça, c'est ce que je viens de nommer, suspense et effet de surprise, c'est deux des principaux ressorts narratifs. L'effet de surprise, évidemment, on peut appeler ça aussi rebondissement, coup de théâtre ou punch. Eh bien, l'explication de Hitchcock, qui tourne autour de ce que le lecteur ou le spectateur sait ou ne sait pas, et donc c'est un exemple qui est aussi limpide pour comprendre ces ressorts-là en bande dessinée qu'il l'est pour le cinéma. Ça marche pour les deux.
Et c'est fondamental aussi, Michel Giguère, de souligner que le suspense, en tant que procédé, en fait, il est évidemment pas confiné. Je pense que tu l'as dit un peu tantôt. En fait, il est pas confiné au genre éponyme. Il est au cœur d'une grande proportion de récits. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un récit de suspense pour qu'il y ait du suspense. Il peut avoir du suspense, évidemment, dans des récits policiers, dans des récits d'espionnage, dans des récits d'horreur, mais aussi, pourquoi pas, dans des drames sportifs. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter dans le match ou encore dans des procès? Est-ce qu'il va être acquitté, condamné? Et on pourrait continuer encore un bout de temps comme ça.
Oui, même les histoires d'amour, hein?
Oui, effectivement.
Est-ce que tu sais, on a deux personnages qui sont attachants. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce qu'ils vont se séduire? Puis à partir du moment où ils se fréquentent, est-ce que ça va marcher? Puis s'ils se laissent à la fin, on est en larmes. Donc, oui, il y a du suspense parce qu'il y a une attente. Et dans mes ateliers ou dans mon accompagnement de BDistes émergents, je répète à celles et ceux qui s'apprêtent à raconter une histoire ou même simplement une scène, je leur répète qu'ils doivent d'emblée identifier le désir du protagoniste, parce que c'est le nerf du récit. Le héros, qu'est-ce qu'il veut? Conquérir un pays, une planète ou le cœur de l'être aimé? Peu importe le genre dans lequel on s'inscrit, dès lors qu'il y a du désir, il y a une expectative, une attente, une tension, une anticipation, un suspense. Le héros est tendu vers son objectif comme un arc face à la cible. D'ailleurs, ça le définit, c'est ça un héros. Il n'est pas obligé d'avoir un gros gun ou des super pouvoirs. C'est simplement quelqu'un qui veut quelque chose puis qui fait en sorte que ça se réalise. Et ça va marcher ou ça marchera pas, c'est d'où le suspense. Et dès que le lecteur se demande réussira-t-il, c'est qu'un suspense s'est installé. Peu importe le genre. Bon, c'est vrai qu'il existe des récits plus, disons, poétiques, plus esthétisants que narratifs, qui dépendent assez peu du ressort dramatique. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut se laisser porter par une histoire sans que le suspense opère, intervienne. Mais autrement, le suspense équivaut au tonus musculaire d'à peu près tout récit. Dans les westerns, par exemple, le suspense n'agit pas seulement dans les scènes de duel. Hein.
Oui, et dans les séries, en fait, j'imagine qu'il y a toujours un peu un défi là, dans la mesure où on sait que le héros, normalement, va s'en sortir, donc il va réussir à surmonter son défi. Alors, ça doit devenir un peu plus difficile pour les auteurs, pour les créateurs, de faire qu'on reste quand même accroché à une tension. Donc, comment le héros va-t-il s'en sortir?
Oui, ultimement, comment il va s'en sortir? Mais dans l'intervalle, avant d'arriver au ultimement, avant le dénouement final et général, un récit se constitue d'une suite de micro-suspenses à l'intérieur des séquences. Et par ailleurs, le propre de la série, c'est qu'on suit un héros d'aventure en aventure, comme chantait Serge Lama, et on en vient à le connaître, on l'accompagne. Et pour peu que sa personnalité suscite de la sollicitude, eh bien c'est l'empathie qui va entrer en ligne de compte. Le lecteur va se ronger les ongles parce qu'il sait qu'une menace plane sur le personnage, parce qu'il veut pas qu'un malheur lui arrive. C'est le phénomène d'identification qui va être très important dans la diaporonférence de demain aussi. Et ça, l'identification nous mène à revenir sur un aspect auquel j'ai fait allusion plus tôt, deux fois plus tôt qu'une, le point de vue. Par exemple, le bédiste peut raconter les faits selon le point de vue d'un personnage. Le cas échéant, il va épouser le regard d'un personnage. Ça implique pas seulement ce qui est vu, mais également ce qui est masqué, effacé du regard de ce personnage-là, par sa propre volonté ou à son corps défendant, hein, des choses dont il n'est pas témoin, ou il y a des choses peut-être que le personnage nous cache volontairement. Mais, en tout cas, le lecteur n'est pas toujours capable de savoir ce que le personnage sait ou ne sait pas. Et ce flou-là, cette complexité-là, je trouve, enrichit le jeu, rend l'expérience encore plus jouissive.
Et pour bonifier cette expérience-là, c'est là peut-être que les autres thématiques, les autres outils, dans le fond, dont tu nous parles aussi sporadiquement, Michel Giguère, viennent en ligne de compte. Dans le fond, pour recréer le point de vue, le dessinateur, il va utiliser des angles de vue, des cadrages, la profondeur de champ, des outils narratifs, et il va composer, dans le fond, son image. Et ça aussi, ben, c'est des sujets que tu avais amenés, entre autres, sur la mise en scène, sur la mise en séquence, qui viennent servir aussi nécessairement la diapo-conférence de demain.
Oui, effectivement. La composition de l'image, d'une certaine façon, reproduit le regard. Le dessinateur, je dis toujours qu'il place les éléments de l'image, mais il place aussi le lecteur. Il nous place à un endroit qu'il a déterminé. Et notamment, est-ce qu'on va voir à travers les yeux d'un personnage? Si c'est le cas, on parlera de plan subjectif. C'est comme ça que ça s'appelle, voir à travers les yeux du personnage. On peut aussi voir l'action à distance, en quel cas le lecteur se sent moins impliqué, moins embarqué. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas intéressant. On se sent alors plus spectateur de l'action qu'acteur de l'action. La composition de l'image, notamment l'angle de vue, crée tantôt l'impression d'être au cœur de l'action, tantôt l'impression de devenir témoin, ou même des fois voyeur de l'action selon le degré d'intimité de la scène et selon aussi la distance où nous place le dessinateur, le metteur en scène.
Et le point de vue, évidemment, c'est pas juste non plus une question de regard. Donc l'expression va s'entendre au propre comme au figuré.
Tout à fait. Justement, pour utiliser peut-être une métaphore très terre-à-terre, si toi puis moi, on allait voir jouer les remparts chacun de notre côté, puis qu'entre deux périodes, on se croisait dans la file pour aller t'acheter une bière, je pourrais te demander, c'est quoi ton point de vue sur la glace Ou je pourrais te demander, c'est quoi ton point de vue sur l'issue du match? Et là, l'expression aurait pas le même sens du tout. Le lecteur peut donc éventuellement se faire raconter la version d'un personnage, ce qui peut drôlement biaiser la relation des événements, l'histoire qui nous est racontée. Donc, il y a le regard, mais il y a aussi la voix qui nous parle. Et à cet égard, la question devient, alors, qui est-ce qui raconte? Je vais donner demain soir plein de titres en exemple, dont certains qui montrent différentes versions d'un même fait par autant de personnages. Ça, c'est pas mal intéressant.
Et là, on retourne aussi, j'ai l'impression, au départ de la chronique, dans le fond, à ton titre, à ton intitulé, tu parlais de suspense, mais tout au début, en fait, tu le disais à tout le moins, là, à propos de ce que le lecteur sait ou sait pas. Donc, l'autre terme qu'il faudrait définir, outre le suspense, la focalisation.
Oui, et c'est un peu technique, c'est un terme un peu moins connu. Et quand je traite de focalisation, je cite des extraits d'un ouvrage qui condense bien le sujet, je trouve, qui s'appelle « Le langage du cinéma narratif », écrit par le professeur de cinéma Henri-Paul Chevrier. Et il écrit, ouvrez les guillemets, « Le narrateur peut contrôler les informations dont dispose le lecteur, ce qui lui permet de manipuler le savoir de celui-ci par rapport au savoir du personnage. » Tiens, on revient au jeu dont on parlait tantôt. Je poursuis. Cette perspective s'exerce donc selon trois points de vue, selon un procédé qu'on appelle en littérature, au cinéma et en bande dessinée, la focalisation. Alors oui, c'est pas simplement technique et c'est plus facile à appréhender comme notion quand on voit des exemples de scènes. C'est ce qu'on va faire demain soir sur grand écran. On va s'en offrir toute une panoplie. Mais là, tout de suite, au micro, je dirais seulement qu'il y a je cite toujours le professeur Chevrier. Il y a focalisation zéro, c'est le premier type, quand le narrateur en sait plus que les personnages. C'est le narrateur omniscient qui connaît même les pensées et les émotions de chacun des personnages.
Et donc, Michel Giguère, ça veut dire que quand il écrit que le narrateur en sait plus, on pourrait aussi dire que le narrateur en dit, en montre plus que savent les personnages, donc que, par extension, le lecteur en sait plus que les personnages également.
Oui, lui, il le formule comme ça, mais t'as tout à fait raison. Nous, de la manière qu'on le vit, on se fout un peu de ce que le narrateur sait ou sait pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous, le lecteur, on sait ou on sait pas, mais ça revient au même. C'est ce que le narrateur nous dit ou nous dit pas, ou alors nous dit pas tout de suite. Et donc, c'est ça, le lecteur, il sait ce que l'auteur lui dit, puis en termes de cinéma et de bande dessinée, il sait aussi ce que le narrateur lui montre et lui fait savoir d'une façon ou de l'autre. Ça nous ramène au jeu, qui se joue à trois. Hein. Le deuxième type de focalisation, ouvrez à nouveau les guillemets, il y a focalisation interne, quand le narrateur en sait autant que les personnages. Le narrateur s'identifie à un personnage en particulier pour ne fournir que des infos connues de ce dernier. Fermez les guillemets. Alors finalement, la troisième catégorie, c'est la focalisation externe. Quand le narrateur, là vous me voyez venir, quand le narrateur en sait moins que le personnage, parce qu'il s'apparente à un observateur objectif qui se borne à décrire les comportements extérieurs sans jamais connaître ni les pensées ni les sentiments des personnages. Les événements sont décrits de l'extérieur sans que nous ne pénétrions dans l'intériorité des personnages. Fermez les guillemets. Alors, encore une fois, bon, la focalisation externe, ça dépasse la seule dimension des pensées. De la manière que c'est formulé, on pourrait penser que c'est ça, mais non, il n'y a pas seulement ce qui est dit ou pas, il y a aussi ce qui est montré ou pas, ce que le personnage voit, que le narrateur ne montre pas au lecteur, ou en tout cas, pas tout de suite. On va voir plein d'exemples demain.
Et justement, en fait, pour les gens qui se disent, qui nous écoutent, ils disent, wow, vous êtes pas mal dans la théorie, est-ce que tu aurais quand même quelques exemples concrets à nous fournir?
À fournir de façon audio-verbale.
Exact. On évoque, on imagine.
Oui, oui, absolument. Alors, par exemple, l'autofiction, hein, c'est un genre qui est très en vogue, que les gens, avec lequel les gens sont familiers. L'autofiction est un genre de prédilection pour la focalisation interne, puisqu'en matière de focalisation interne, on pense évidemment aux histoires racontées au jeu. Le lecteur en sait autant que le personnage, il est branché sur ses pensées, ses souvenirs, ses émotions, ses fantasmes. Alors quand le personnage est le narrateur, quand le narrateur raconte sa propre histoire et se met en scène lui-même, donc il nous donne accès à ses pensées, puis normalement il connaît pas celles des autres personnages. Disons que l'autofiction puis la focalisation interne, la narration au jeu, ont souvent des rapports intimes, si tu me permets l'expression, ce qui est assez pertinent dans le domaine de l'autofiction. Le récit à la première personne, c'est tout autant imposé, par ailleurs, dans le roman noir et par voie de conséquence dans ses transpositions au cinéma et en bande dessinée. Dans ce type de polar, les états d'âme du policier ou du détective ou du malfaiteur prennent souvent plus d'importance que le résultat de l'enquête. Et dans la diapoconférence, il va y avoir plusieurs beaux spécimens de polar. Et que penser quand la personne qui raconte a l'air d'osciller entre la réalité puis la folie, quand l'auteur, le grand marionnettiste, brouille les pistes, en fait un maximum pour nous faire douter de la bonne foi du personnage narrateur ou pour nous faire douter de son jugement, de son contact avec le réel. Et là, ça devient drôlement tordu, le jeu se complexifie à ce moment-là.
Et si on regarde du côté du narrateur Dieu, du narrateur omniscient?
Oui, ben, pour y aller avec un autre exemple qui va peut-être parler aux gens, là, c'est la focalisation zéro, comme on l'appelle. Le lecteur en sait plus que le héros. Et c'est particulièrement intéressant dans les récits, vous savez, où chacun des personnages narrateurs connaît une part de toute l'affaire et nous la partage, puisque le narrateur nous donne accès aux pensées puis à ce que chacun des personnages sait. Mais on se retrouve à un moment donné dans le récit où il y a seulement le lecteur qui a le tableau d'ensemble, qui a le casse-tête complet. Puis on voudrait des fois brasser un personnage puis lui dire « Hey, fais attention, toi tu le sais qu'il y a une menace ou que tel autre personnage lui ment. Ou... » Mais lui, il sait pas, puis c'est tout le thrill est là, tout le suspense est là. Et tu viens de mentionner l'expression « narrateur-dieu », puis ça me fait penser aux demi-dieux que sont les super-héros. Dans mon exposé, j'ai réservé une place de choix à Marvel's, œuvre dans laquelle le scénariste Kurt Busiek a eu l'idée de revisiter l'univers de Marvel, mais au ras des pâquerettes. Je veux dire qu'on est au niveau du monde ordinaire. Le ton du récit est aussi sérieux que les images peintes du célèbre Alex Ross sont réalistes. Et dans cette BD-là, c'est pas un narrateur omniscient, mais plutôt une focalisation interne, c'est-à-dire qu'on observe les exploits des super-héros à travers les yeux d'un photographe reporter. Et c'est lui qui est le personnage principal et aucun des super-héros. Le phénomène des super-héros, en fait, est abordé ici d'un point de vue, je le disais, réaliste, puis avec une certaine distance. Et ça fait en sorte que le caractère sensationnel des exploits de ces demi-dieux se trouve comme ça débanalisé. Il n'y a aucun comic book, ni aucun film de Marvel qui nous avait placé comme ça dans le quotidien, où le seul fait, par exemple, de voir Spider-Man traverser la vitre du bureau, de la tour à bureau, là, prend la dimension d'un événement extraordinaire. On a parfois, ce qui devrait l'être dans la vraie vie d'ailleurs, mais on a parfois recours même au plan subjectif dans cette BD-là pour accentuer l'effet « wow », la dimension fantastique. Alors que d'ordinaire, dans les comic books, on est placé aux côtés des super-héros, alors qu'ici, ils passent furtivement dans le ciel au-dessus des toits. Le commun des mortels les voit à peine passer brièvement, tandis que lui, le commun des mortels, il reste rivé au sol sur son trottoir là, parmi la masse qui sont ébahis de voir ces demi-dieux-là. Donc le regard, il est dans ce récit-là, c'est également le regard des médias, les journaux, la TV. C'est donc une BD qui a par ailleurs un regard sociologique.
Et je pense qu'à travers tout ça, enfin, on comprend bien aussi, et dans les choix de narration, par exemple, ben comment justement le narrateur ou ces choix narratifs-là, dans le fond, vont devenir des outils pour créer un suspense, pour créer des enjeux, pour donner une perspective, etc., etc. Donc, à ajouter, au final, dans la boîte à outils visuels et dans la boîte à outils narratifs.
On parlait tantôt que c'était un jeu, ben c'est comme si l'auteur a à sa disposition une grosse boîte de jouets. Il y a plein de jouets. Et c'est comme n'importe quel jeu. Au départ, peut-être qu'on est plus ou moins familier avec ces jouets-là, avec ces outils-là, en tant que lecteur. Mais plus ça avance, plus on va apprécier la complexité de certains récits, l'originalité de d'autres récits, ou encore des fois, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des espèces de flou qu'on est un peu perdu. Moi, j'adore ça. Ben, si le scénariste est perdu lui-même, ça marche pas. Mais quand tout est fait en sorte que je sois perdu dans une histoire et que je sais qu'à la fin, je vais me faire ramasser, puis là, tout va s'illuminer, ça, j'adore.
Oui, puis on cite de tes titres, j'ai l'impression, mais ça revient toujours à la question pourquoi on embarque. Et pour moi, c'est un plaisir d'écouter ce type d'éléments-là, de lire un peu ce type d'éléments-là. Puis après ça, une fois qu'on a lu une première, une deuxième fois une BD, qu'on s'est laissé porter par le récit, des fois, ça devient intéressant de se poser la question pourquoi j'ai embarqué, de regarder un peu les choix, de réfléchir la lecture qu'on a fait. Et je pense que, et j'espère que les auditeurs et auditrices ont bien compris que cette conférence-là, autant que les autres qui sont dans ce cycle qu'on évoquait au départ, ben deviennent des beaux outils. Donc, on n'a pas nécessairement le temps de prendre 2-3 jours pour lire un livre d'analyse, mais toi, tu nous offres, dans le fond, un condensé d'analyse, de compréhension et d'outillage de lecteurs pour nous permettre, dans le fond, d'enrichir notre regard sur un sujet qui, on le comprend d'ailleurs, parce que ça fait 12 ans que tu passes ici, à jaser de ça, à quel point c'est vaste, tout ça. Dans le fond, je pense que c'est le 8, donc à mettre à l'agenda, donc à la Maison de la littérature également, du côté de Facebook, et en différé également, ce sera disponible. Je fais une petite parenthèse, peut-être Michel, avant de te laisser partir. Les auditeurs ont peut-être vu passer d'ailleurs, en fait, tu collabores désormais avec la revue Les Libraires. Et en parallèle, ben, il y a aussi le Festival d'Angoulême qui s'est conclu, qui s'est terminé. Les palmarès d'ailleurs sont disponibles en ligne. Je n'en ferai pas nécessairement la nomenclature mais notamment le Grand Prix du Festival d'Angoulême a été donné à Riyad Satouf pour l'arabe du futur, et tu as eu l'opportunité de le rencontrer justement dans la dernière livraison du magazine, donc une entrevue menée par Tes Bons Soins avec Satouf.
Oui, écoute, ça a été encore là tout un suspense parce que l'entrevue s'est tenue en décembre et c'était pour la sortie de l'arabe du futur, tome 6. Et puis, il se trouve que, en tout cas, c'est ce que prétendu son l'attaché de presse de son distributeur en Amérique du Nord, là. Pour le Québec, il accordait le Québec tout entier. Il accordait seulement 2 entrevues. Et là, l'attaché de presse, elle a choisi le journal Les Libraires. Bon, entre autres. Et donc, c'était comme un privilège d'entrée de jeu. Mais c'est devenu encore plus gros quand, après coup, après l'entrevue, on a appris qu'il était en nomination, puis après ça, on attendait. Puis là, c'était toute l'histoire de savoir quand ça va être annoncé. Puis finalement, ça a été annoncé, on l'a su quelques heures avant que ça parte sous presse. Fait qu'on a pu, à la toute dernière minute, in extremis, le mentionner. Et moi, par ailleurs, je l'avais déjà reçu au Rendez-vous de la BD en avril 2008. Et puis, d'entrée de jeu, en commençant à lui parler, je lui ai rappelé ce souvenir-là. Il s'en souvenait très bien. Et ça l'a tout de suite comme installé la table. Ça a été un entretien très sympathique. C'est un monsieur qui, je ne sais pas si on le réalise bien au Québec, bien que l'Arabe du futur a beaucoup de succès, mais en Europe, c'est un best-seller.
En fait, c'est dans les 10 plus gros tirages en général.
Oui, oui. Puis les carnets d'Esther aussi, ça vend énormément. Alors, il pourrait avoir la grosse tête, mais non. Mais c'est un type très sympa, très facile d'accès.
Alors ça sera à lire dans le numéro des libraires qui viennent débarquer dans les présentoirs ou encore dans la version numérique sur le site web également. Et je rappelle à nouveau, donc demain, mercredi 8 février, dès 19h, ou sinon pour ceux qui nous attrapent après le 8 février, ben sachez que c'est disponible également sur la page Facebook de la Maison de la littérature dans la section vidéo.
Puis il y aura une bibliographie avec plein de titres où est-ce que là, justement, vous pourrez apprécier toutes les notions théoriques que vous aurez apprises.
Michel Giguère, merci beaucoup.
Hey, au mois prochain.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous. Et donc, on va parler de Tintin. J'ai mentionné Émile Bravo. On va en parler aussi. On va parler de Casterman. Bref, on va parler de plein d'affaires dans cette chronique-là. Dans le fond, c'est un parcours qui va nous amener des uns aux autres. Stéphane Gravel, deuxième mois en BD back-to-back, si tu me permets l'anglicisme.
Allô? Oui, d'un mois à l'autre, assez rapidement.
Enfin, on termine et on commence. Et dans le fond, pour commencer, Stéphane, tu as décidé de t'intéresser à Tintin et à travers un ouvrage, en fait, je parlais de 1919 en ouverture d'émission, c'est les débuts de Casterman, et l'ouvrage nous amène de Tintin à Tardy sur l'évolution, dans le fond, de Casterman, un ouvrage de Florian Moine.
Écoute, c'est un ouvrage assez exceptionnel, assez intéressant. Je l'ai pas terminé, c'est rare que je vais parler d'un livre que j'ai pas terminé. Je pense que Florian Moine a fait un travail de
Moine.
Et voilà.
On peut pas s'empêcher de...
Il est allé dans les archives des éditions et il a sorti les lettres, il a sorti les exercices comptables et il raconte l'histoire de cette maison d'édition-là qui, Castelmans, est passée un peu sous l'image de Hergé, à fin de compte. Quand on pense à Casterman, on pense à Hergé, mais c'est 5 générations de Casterman qui font cette maison d'édition-là. Ça a commencé en 1919, et j'ai trouvé ça... C'est un ouvrage qui... Il y a du stock là-dedans, là. Hein? On parle de finance, on parle de guerre, on parle de... C'est assez... c'est pas facile, nécessairement facile à lire. Faut vraiment s'intéresser à la bande dessinée, puis faut vraiment s'intéresser aux éditions.
Oui, puis mais il y a un plaisir, par contre, puis on l'a vu aussi dans d'autres ouvrages avant qu'on a analysé ici à l'émission, il y a un plaisir d'aller au fond des choses, puis d'avoir quelque chose qui est ultra détaillé. On a toujours l'option, soit on lit dans le détail, ou soit on feuillette et on va à la pêche aux anecdotes un peu à travers tout ça aussi.
Absolument, puis j'ai beaucoup... moi, j'apprécie beaucoup ça, parce que c'est... En même temps, ce sont des pages d'histoire, c'est des pages d'histoire en Belgique, et... c'est des pages d'histoire pendant la Grande Guerre, après la Grande Guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est tellement riche. Et on sent là d'où vient la bande dessinée et pourquoi la bande dessinée est arrivée comme ça. Et c'est ça, c'est ces premiers pas-là de la bande dessinée que j'ai trouvé intéressant. Ça prend quand même un peu de temps. Là. De 1919 en 1934, il n'y a pas de bande dessinée chez Casterman. Mais il y a du livre. Il y a du livre, surtout pour l'école. C'est une famille très catholique. On fait des histoires très catholiques. C'est de la morale. C'est des petites histoires morales. Ils ont beaucoup de contrats avec les écoles, parce que ils vont éditer ce qu'ils appelaient le livre de prix. Le livre de prix, c'était le petit livre avec des dorures sur le côté, assez beau, illustré, qui était une petite histoire qu'on offrait aux étudiants.
Donc un prix.
Qui étaient les premiers de classe ou qui avaient les meilleures valeurs morales ou qui... Et c'était des histoires, ça, assez... souvent libre de droit, qu'on adaptait et qu'on faisait avec des petits dessins et puis qu'on offrait aux enfants. À un moment donné, ça s'est épuisé un peu, cette notion-là de livre de prix, de rééditer toujours les mêmes choses. On a commencé à aller chercher des auteurs et avoir des petites histoires un petit peu plus originales. Casterman, en fait, c'est un peu, si on veut, la base de sa fortune avec ça. Et pour se renouveler avec ce livre de prix-là, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'avoir des histoires un petit peu plus originales. Donc, on n'a plus un livre de prix, mais on a un livre qui est une histoire intéressante, qui est un récit intéressant. On fait des petits livres pour enfants. On commence à prendre le marché du livre pour enfants. Ça fonctionne bien. Et jusqu'en 1934, où on a commencé à éditer les aventures de Tintin, dessinées par Hergé, qui paraissaient avant dans le journal Le 20e, dans la petite rubrique Le Petit 20e, qui était géré par Hergé. Donc, c'est comme ça qu'a commencé Hergé dans les maisons d'édition chez Castelmans. C'est assez intéressant.
Oui, c'est intéressant, dans le fond, c'est qu'ils se disent, bon, OK, on veut évoluer, on veut amener le lectorat à un certain point ou se développer des nouveaux lectorats. Ils s'intéressent à la jeunesse et, dans le fond, tranquillement, ils vont amener la bande dessinée, dans le fond, à travers Hergé, dans leur boîte comme telle.
Exactement. Puis on est parti avec le livre catholique, là. Fait qu'on imprime, ça grossit, on a des grosses presses, on a des presses de plus en plus grosses, on est de plus en plus puissantes, on est capable d'amener des illustrations dans les récits. Et là, c'est là que c'est comme ça que ça se développe, le livre pour enfants. Mais au début, Tintin, c'est pas les ventes de fous.
Là.
C'est pas les ventes de fous. Si je prends la première année, la quantité d'albums vendus du premier album de Tintin, c'est ou des premiers albums, parce qu'ils sont un sont un peu parus en même temps, là, les quatre premiers ou les cinq premiers chez les éditions Casterman. C'est arrivé assez vite. C'est 2000 albums vendus en 1934.
C'est pas un phénomène d'entrée de jeu, c'est devenu un phénomène en cours de route.
Exactement.
Parce qu'on a laissé le temps à la série, j'imagine, aussi de faire son chemin, autant que le temps au médium de faire son chemin, parce que...
Ben, c'était des histoires qui restent, et c'était des histoires dont on parlait, et dont on... De bouche à oreille, la publicité s'est faite. Ce qui veut dire que cinq ans plus tard, en 1939, c'est 7000 albums qui ont été vendus de Tintin chez Casterman. Et là, bon, il y a eu la guerre, il y a eu des réorganisations. Casterman reste debout pendant la période de la guerre, continue à éditer. Le petit 20e, lui, va disparaître avec l'occupation nazie, le papier qui est de moins en moins présent et tout ça. Mais Casterman, lui, réussit avec ses valeurs à rester en place, puis... En 1945, c'est 72 000 albums là, de Tintin qui sont vendus.
Donc ça, c'est quand même une grosse évolution. Là.
Ben, c'est un peu la... C'est une bonne évolution, mais c'est surtout que c'est une évolution assez quand même lente, mais stable. C'est solide.
De toujours garder les acquis, de construire sur de nouveaux acquis, mais qu'il y ait un plateau qui soit rapidement atteint ou sur lesquels, dans le fond, j'imagine, comme éditeur, ben, on peut dire, OK, j'ai une base sur laquelle je peux m'appuyer, d'autant qu'il ne devait pas juste avoir Tintin, donc un catalogue aussi assez stable également.
Exactement.
Donc, ça permet d'avancer.
Et c'est solide. On avance là-dessus. Écoute, c'est là que je suis rendu dans cette histoire-là, moi. Je suis pas rendu loin, là. Fait qu'on risque d'en reparler parce qu'on va aller jusqu'à les années 68, là, quand il y a eu toute la révolution de la jeunesse, là. Casterman a participé énormément à ça avec ses nouveaux auteurs comme Tardy, Comès et compagnie. Ils sont restés là jusqu'en 1999, la famille, avant d'être achetée par le groupe Flammarion. Donc, ça a été longtemps une maison d'édition familiale avec des prises de position éditoriales, entre guillemets, familiales. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Mais là, en même temps qu'est sorti ce livre-là, Casterman de Tintin à Tardy, 1919 à 1999 de Florian Lemoine, c'est chez les Impressions Nouvelles. À côté, bon, on réédite encore une fois Les cigares du pharaon de Hergé par les éditions Casterman et Moulinsart. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas un grand fan ou un grand connaisseur de Tintin. Je sais que ceux qui connaissent Tintin et connaissent vraiment Tintin. Moi, je connais pas ça tant que ça. Je connais Tintin comme lecteur de quand j'étais jeune et j'ai jamais été un tintinophile.
Ouais, t'es un peu comme moi. En fait, c'est les BD qui... C'est parmi les BD qui traînent à la maison qu'à un moment donné, on a lu, relu, relu parce que il y en avait une trentaine de BD puis c'était celle-là qu'on avait facilement disponible. Puis
c'est ça, puis je pense que j'ai jamais réussi à apprécier Tintin à sa juste valeur. Parce que là, en relisant les cigares, version couleur, je me suis posé la question, est-ce que la couleur vaut la peine ou ne vaut pas la peine? Mais je pense que la couleur, pour redécouvrir cette histoire-là, vaut la peine, parce que la couleur est très, 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 très belle dans cet album-là. Il y a un petit côté un peu désertique, le choix de la palette de couleurs est assez à mon goût, je dirais.
Ils ont refait la palette, dans le fond, pour...
Ben, c'est que les cigares du pharaon ont été édités pour le petit 20e en noir et blanc.
Okay.
À l'époque, les albums d'Hergé, une fois imprimés, faisaient autour de 139 pages. Pour des raisons d'édition, quand les albums sont sortis en volume, chez Casterman, on a privilégié le 62 pages pour économie de papier, pour avoir un truc, une collection constante, ce qui fait que c'est là dans les années 40 ou quand que c'est repéré en album que Hergé a redessiné ou fait redessiner les albums de Tintin. Il a redécoupé aussi les aventures pour avoir le format de 62 pages et les a fait en couleur. Mais la version originale
existe encore, donc la version amplifiée, parce que là on parle, c'est plus que du simple au double en termes de pagination.
C'est 130 pages. Et là j'ai découvert complètement autre chose, c'est-à-dire que j'ai découvert que Tintin en 62 pages et Tintin à 139 pages, c'est pas la même affaire. La naïveté du récit préliminaire, si on veut, ou du récit premier, est tellement, pour moi, plus intéressant que le récit adapté ou le récit travaillé. Parce qu'il y a une naïveté là-dedans, il y a une réflexion qui n'est pas là, il y a les instincts aussi du petit 20e, du côté scout, du côté moral. On est en 1934, je ne veux pas lire une BD de 2023, là. C'est sûr qu'il y a des aberrations, c'est sûr qu'il y a des choses qui aujourd'hui nous semblent épouvantables dans ce qui est dit, mais il ne faut pas non plus bâillonner le passé, parce que le passé n'est pas comme aujourd'hui. On essaie beaucoup de le faire avec Tintin en Amérique.
À la limite, en fait, ça nous permet de prendre conscience, je pense, des avancées qui ont été faites en termes de droits sociaux, en termes de droits individuels, de droits collectifs. De voir qu'il n'y a pas 60 ans. Dans le fond, c'était un autre schéma de pensée.
C'est fou.
100 ans, c'est un autre schéma de pensée complètement.
C'est fou. Mais ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est que l'album d'origine est un feuilleton. Il paraissait à chaque semaine dans le petit 20e. Et dans le récit long, on le sent, ça. On sent qu'il y a de l'improvisation. On sent qu'on... Là, je viens de comprendre le personnage de Tintin. Le personnage de Tintin est un personnage qui ne va pas vers une aventure, mais c'est l'aventure qui vient toujours vers
qui
lui.
Qui l'absorbe.
C'est ça. Le récit va changer avec un coup de matraque dans le derrière du crâne et on va changer complètement l'orientation du récit. Ben, c'est parce que c'est du feuilleton. Et je me suis dit, mais on perd complètement le rythme du feuilleton quand on tombe dans l'aventure. Parce que là, moi, dans l'aventure de 62 pages, je m'attends à une structure narrative qui existe plus ou moins. Bon, les tintinophiles vont peut-être m'attaquer, là, mais qui sont pas, en tout cas, dans les premiers albums, pas aussi bien que dans les albums de première édition. Et ça, ben, j'ai eu un plaisir fou. Là, j'ai le goût de relire les vieux Tintins pour voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai toujours le même effet. Mon fils a lu Tintin au Congo. J'ai jamais vu, mon fils a 20 ans, j'ai jamais vu quelqu'un rire autant, mais là, il rit du ridicule.
Du côté vieillot, dans le fond.
Parce ouais.
Parce que c'est le terme, en fait, ça a mal vieilli. Ça s'applique à certains trucs, on s'entend.
Ça a extrêmement mal vieilli. La scène où Tintin se met à tuer sans arrêt des antilopes, ça n'a pas de bon sens de voir ça aujourd'hui, mais c'est risible. Le Tintin va passer du chef-d'œuvre au mime, là, je pense, là, avec des histoires comme ça. Mais ça reste quelque chose qui est solide, qui est bien bâti, et ça reste aussi, en quelque sorte, ben le grand ancêtre de la bande dessinée franco-belge. Et ça, on peut pas passer à côté, là.
Alors, ça, c'est Tintin, dans le fond, Les cigares du pharaon, donc l'édition couleur, l'édition complète de ce qui était publié de 1932 à 1934, de 1932-1934, dans le petit 20e, donc qui a été réédité en couleur, mais dans une version 130 pages. Et je suis très curieux de jeter un coup d'œil, sincèrement, à ça. Juste pour faire le comparatif aussi avec la version courte, je serais curieux de voir aussi. Stéphane Gravel.
J'ai lu les deux en parallèle. Moi, j'avais l'air un peu fou, là. Mon fils m'a dit, pourquoi tu lis? Parce que je lisais la noir et blanc qui a été édité il y a quelques années, la
après
couleur,
savoir qu'est-ce qui est enlevé,
les trois, puis là, je lis une BD avec trois en même temps, puis il m'a dit...
Faut que t'aies la table, t'occupes la table de cuisine au complet, là.
Ça va pas!
et Stéphane, avant de se laisser, j'avais mentionné d'entrée de jeu aussi que t'allais parler d'Émile Bravo et de Spirou, évidemment, dans ce cas-ci, L'espoir malgré tout, donc série qui se poursuit, qui est hallucinante d'ailleurs, là, absolument hallucinante. Là.
Oui, et pourquoi? C'est parce que là, on est à la même place. Je veux dire, on est... ce que je me suis rendu compte, c'est que Spirou, l'histoire malgré tout, c'est l'histoire des éditions Dupuis qu'il y a là-dedans. Et c'est un album qui est magnifique, qui est grandiose, qui est contemporain, mais qui remet en question aussi quand même les trucs du passé, là, ce qui est des trucs de la guerre. Donc, pendant que Hergé faisait son... pendant que Hergé faisait son Boy Scout et avait une BD relativement relativement de droite et de droite catholique. Chez Dupuis et chez Spirou, on avait le journal Spirou et les enfants les membres des Amis de Spirou qui faisaient une BD qui était dans l'ordre de la résistance. Et c'était vraiment une BD qui était dans la résistance. Le club des jeunes lecteurs de Spirou étaient des jeunes qui faisaient réellement partie des jeunes qui voulaient pas avoir l'occupation nazie. Ben c'est sûr, je crois qu'on pense aujourd'hui, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le gars qui était derrière ça, qui était derrière le journal Spirou et derrière les Amis du journal Spirou, c'est Jean Doisy. Et Jean Doisy, on le connaît pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup dans les éditions Spirou. On va le voir, là, parce que une BD va sortir bientôt qui s'appelle Les Amis de Spirou. Et ça raconte un peu son histoire. Et lui, il s'est battu pour passer des messages entre guillemets résistants dans les aventures de Spirou et dans les aventures de son journal. Et le journal n'a pas réussi à survivre à l'occupation nazie. Donc, il a continué à raconter ses histoires avec des théâtres de marionnettes. Et ça, on le revoit dans le...
Donc, encore là, c'est des correspondances, c'est des livres à lire côte à côte, là.
Oui, j'ai trouvé ça extraordinaire que de voir que Émile Bravo fait l'histoire des éditions Dupuis dans sa bande dessinée. Et la présence de Doisy n'est pas là, mais elle est là parce que Spirou fait ce que les Amis de Spirou faisaient à l'époque pendant la guerre. Et j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Si on fait une recherche sur Internet et on fait La guerre de Spirou, je pense. Il y a un podcast je pense que c'est France Inter ou un truc du genre, qui raconte cette histoire-là et qui raconte justement l'histoire de Jean Doisy, qui était celui qui a ramené et qui a amené en avant les histoires de Spirou et de qui s'est inspiré à quelque part Émile Bravo pour faire son histoire. Et ça, j'en parle aujourd'hui, mais 1923, l'année 1 des éditions Dupuis. Encore une fois, une maison d'édition familiale belge qui va s'intéresser aux enfants, qui ressemble drôlement à Casterman. Casterman va être d'une droite à la rigueur. Ils vont collaborer avec... on dit que Hergé a collaboré avec les nazis, tandis que de l'autre côté, Jean Doisy, un peu inconnu, a lancé Spirou, qui est un personnage de la résistance. Fait que là, on voit vraiment deux pôles de la bande dessinée, c'est-à-dire le combat de tous. Et l'école de Tourné et l'école de Marcinelle. Et on a Spirou et Tintin comme on a Mac et Apple, comme on a Mac et Windows. Là. C'est quand même super intéressant. Donc, je vais y revenir, c'est sûr. Il va y avoir de plus en plus de bouquins sur les 100 ans de chez Dupuis, et on va y revenir.
Alors, en fait, là, c'est beaucoup de portes ouvertes, j'ai l'impression, cette semaine, autant dans le passage de Michel sur les processus, autant de ton côté, justement, dans l'histoire de la BD franco-belge, au bout du compte, de ses racines, de l'impact de la Deuxième Guerre mondiale aussi sur son évolution, des écoles et le reste. Il y a beaucoup d'éléments aussi à décrypter, puis des éléments qui, encore là, un peu comme quand on réfléchit au procédé graphique, visuel et le reste, autant quand on fait l'histoire, ben, ça nous apporte une lecture, une compréhension aussi supplémentaire de ce qu'on lit. Je trouve que c'est extrêmement riche. Alors, pour l'instant, on met ça sur la pile des suggestions de ce que je t'en comprends. On en reparle. On aura peut-être des belles excuses, d'ailleurs, au fil des prochaines semaines pour reparler d'Émile Bravo également. Mais d'ici là, Stéphane Gravel, on se dit à très bientôt.
À bientôt.
Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Et on vous souhaite une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL et pour ceux qui nous écoutent en balado-diffusion.